Allez, en Israël, on va revenir sur les nouveaux règlements en Judée-Samarie qui semblent mécontenter les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni. On essaye de comprendre pourquoi avec notre invité Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires. Jonathan Serrero, il est à votre micro.
Raphaël Jérusalmi, bonjour et Boker Tov.
Bonjour.
Le cabinet de sécurité israélien a pris donc toute une série de mesures pour renforcer l'ancrage administratif du pays en Judée-Samarie. Certains ministres ont même parlé de révolution. Peut-on parler du lancement du processus d'annexion des territoires ou c'est encore beaucoup trop tôt?
Alors, probablement à long terme, le problème de l'annexion, ce n'est pas si annexé ou non, c'est quand. C'est-à-dire en ce moment, il y a des processus diplomatiques et politiques qui pourraient être freinés par cette annexion. Je parle de normalisation possible avec d'autres pays arabes, et donc annexer maintenant risquerait de nuire à ces processus. Tôt ou tard, il faudra probablement annexer la Judée-Samarie. Ce qui se passe en ce moment, de toute manière, c'est un petit peu Abou Mazen qui l'a invité, dans la mesure où, un, il continue, malgré ses promesses, même à l'Union européenne, il continue à financer les familles de terroristes et les terroristes par des voies détournées. Et deux, il fait tout pour préparer un État palestinien avant l'heure, alors qu'il n'y a pour l'instant aucun État palestinien en vue. Et donc, si lui se permet de prendre toutes ces décisions unilatérales, on est à la barbe des Israéliens, et bien les Israéliens en font de même et prennent eux aussi des décisions unilatérales pour bien lui montrer qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut.
D'un point de vue sécuritaire, Raphaël, est-ce que ces mesures peuvent changer quelque chose ou calmer la situation, au contraire, ne faire que l'empirer?
Non, elles amélioreront la situation. Personne en Judée-Samarie, dans la population palestinienne, ne va s'offusquer grandement d'une meilleure mainmise de la sécurité sur la zone, car il y a effectivement énormément de terrorisme, mais aussi ce terrorisme se base beaucoup sur les actions mafieuses, sur le grand banditisme palestinien qui est la contrebande entre la Jordanie et Israël de drogue et d'armes illégales, par exemple. Et donc je pense que ça sera plus que bienvenu dans la mesure où les services de sécurité palestiniens ne se montrent pas toujours suffisamment efficace pour assurer l'ordre et la sécurité en Judée-Samarie.
Il y a un dossier qui est tout de même absent de ce plan, c'est celui de Khan al-Ahmar, ce village bédouin qui se trouve entre Maale Adumim et Kfar Adumim, tout près de Jérusalem. Malgré les appels déposés pour presser l'État d'engager l'évacuation du village, rien n'est fait. Pourquoi le gouvernement l'a-t-il oublié? C'est une sorte de, on le sait, de patate chaude des autorités israéliennes, Raphaël.
Oui, d'autant plus que sur le plan des évacuations, il y a toujours une décision politique. Ça peut être aussi les évacuations d'implantations illégales. Dans ce qui concerne les Bédouins, ça a toujours été un problème de dilemme, parce que d'un côté, il y a des lois de construction et d'occupation du terrain assez strictes, qui datent parfois même de l'Empire ottoman en Israël. D'un autre côté, il y a le mode de vie bédouin, qui est toujours sédentaire et qui, en fin de compte, les Bédouins sont là, étaient là, ils n'ont pas tous des actes de propriété en bonne et due forme ou de construction en bonne et due forme. Il s'agit en général de villages pauvres, de gens pauvres, et on ne voit pas très bien l'importance de ces évacuations forcées.
Un mot de tout de même, Raphaël, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Le Hamas refuse de déposer les armes. Des membres du gouvernement de technocrates palestiniens qui veulent déjà quitter leur poste. Donc, bientôt, Raphaël, Tsahal reprendra le chemin des combats à Gaza. C'est a priori ce qui va se passer, ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines.
Oui, d'autant plus que la rumeur court que la Maison Blanche autoriserait le Hamas à conserver des armes légères. Alors que le plan Trump, en 20 points, précise que le Hamas doit désarmer complètement. Pour l'instant, la Maison-Blanche nie avoir autorisé ce point de garder des armes légères. Israël s'y oppose formellement. Le fait qu'il n'y ait plus ou pas encore de décision prise par ce comité des technocrates, qu'il soit en pleine débandade ou non, fait que rien ne peut avancer vers la phase 2, inclut une force de défense internationale qui ne peut opérer que s'il a les directives du comité de gestion de la bande de Gaza. On est donc dans la débandade totale du plan Trump. On est dans le chaos administratif et militaire au sein de la partie de Gaza qui a été évacuée par Tsahal. Il faut donc reprendre contrôle de ces zones par la force. Il faut mener une offensive. Le seul problème, c'est qu'il faut mener une offensive différente sur le plan stratégique et tactique de celle qui a été menée jusqu'à présent et qui, il faut bien l'admettre, se solde tout de même par un échec.
Alors, Raphaël, juste deux dernières questions. Nous ne sommes ni vous ni moi Benjamin Netanyahou, mais comment Benjamin Netanyahou doit s'y prendre pour dire à Donald Trump que son plan n'est pas viable pour la bande de Gaza?
Il doit dire tout simplement, puisque le problème, le plan est peut-être viable, mais sur le terrain, pour l'instant, rien n'a lieu. Donc, aucune nation ne se présente véritablement sérieusement pour faire le travail. Ce qu'il doit tout simplement dire, c'est montrer avec carte à l'appui, c'est la même chose d'ailleurs pour l'Iran, tous les renseignements dont Israël dispose, comme quoi la sécurité du territoire israélien et des citoyens israéliens est menacée par la situation actuelle à Gaza. Le Hamas reprend du poil de la bête, le Hamas recreuse des tunnels, reproduit des roquettes, et donc il y a une menace claire et nette sécuritaire pour l'État d'Israël, qui fait que la Maison Blanche ne peut pas demander à l'État d'Israël de ne pas se prémunir contre cette menace.
Enfin, on a appris que le gouvernement avait décidé d'expulser vers le territoire gazaoui deux terroristes palestiniens impliqués dans des attentats en Israël. Comment comprendre, Raphaël, cette décision? Est-ce qu'elle va dissuader ces deux terroristes et les autres candidats à renoncer au terrorisme? On a du mal à saisir le sens de cette décision.
Oui, on a du mal, surtout que par le passé, lorsqu'on a expulsé ou banni des terroristes, c'était vers des pays tiers, même en dehors du Proche-Orient, carrément vers l'Allemagne ou autres, les pays qui acceptaient de les recevoir. On comprend très mal ces décisions. D'un autre côté, Gaza pourrait devenir un petit peu ce que a été l'Australie ou le Canada au début, c'est-à-dire une sorte d'endroit où vers lequel bannir ou expulser tout ce qui est indésirable, une sorte de grand bagne à ciel ouvert. Je rigole, mais pas tout à fait. D'un autre côté, ça aurait été mieux de les avoir dans une zone où on peut les contrôler. On en veut pour preuve les terroristes qui ont été libérés contre les otages, donc des Samaris, et sur lesquels on a la possibilité, le Shin Bet a la possibilité de garder l'œil. Là, évidemment, ces deux terroristes à peine débarqués à Gaza seront récupérés par les factions palestiniennes.
Raphaël Jérusalmi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.